Bonjour à chacun de vous. Excusez-nous pour le petit déménagement. À chaque fois, donc il faut déménager, emménager. Mais merci au pasteur Fern pour ces quelques mots qui nous encouragent. Effectivement, nous avons pu voir le pasteur Paul et je l'ai rencontré pour la première fois. Et alors que le pasteur Fern partageait donc ces quelques mots, j'étais dans mon cœur ému, car ce n'est pas facile. Voilà, c'est pas facile de voir quelqu'un qui a servi le Seigneur d'être dans une telle condition de santé. Mais nous croyons dans la fidélité de notre Dieu. Hein? Peu importe la situation, l'homme, les circonstances, notre Dieu, il est fidèle. Et celui qui a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », il est fidèle à son engagement. Quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors, on réalise aussi l'œuvre de Dieu, le travail de l'œuvre de Dieu, le travail de l'Église, combien ce travail est grand. Mais c'est aussi le plus beau, le plus beau. Nous avions vu la semaine dernière l'Église, une équipe qui gagne. Et c'est l'équipe qui, de toute façon, va gagner. Alléluia. Et quelle joie et quelle grâce pour moi d'être dans cette équipe. D'être dans cette équipe. Et chacun de nous, nous partageons cette grâce. Nous partageons cette joie. À l'occasion de ce mois de septembre, nous allons partager quelques messages, une série de messages. Alors, je crois que j'ai oublié la petite télécommande. Alors je m'excuse, ça fera pour ma femme et ma fille du travail au montage parce qu'il faudra couper ça. Merci. Comme vous le savez, donc depuis quelque temps, il y a les vidéos des messages qui sont en ligne et on essaie de soigner, de travailler de plus en plus, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Hein, ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et Candice et Sophie qui, dès le lundi, commencent à travailler sur le montage, les découpages, etc., etc. Enfin, de mettre une bonne vidéo. Voilà, merci. Merci pour elle. Voilà. Et comme c'est tout un travail, j'essaie de bien faire le dimanche matin. Et là, il faudra déjà couper quelque chose. Désolé. Enfin, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que l'on prie quelques instants, si vous voulez bien, qu'on s'incline et que l'on prie pour la parole de Dieu qu'on va partager ensemble. Seigneur, nous prions parce que nous sommes devant toi et nous voulons réaliser que nous le sommes et que tu as des choses à nous dire. Ta parole est vivante. Elle est plus qu'un discours. Elle est plus que quelques mots sur du papier. Seigneur, nous n'entendons pas un homme. Nous entendons le Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons nous attendre à toi ce matin. Parle à nos cœurs et par ta parole, conduis-nous, transforme-nous, Seigneur. Façonne-nous. Tu es le divin potier. Nous sommes l'argile entre tes mains. Visite encore ce matin le centre Nouvelle Vie par ta parole, ô Jésus. Et libère un cœur, libère une âme. Par ton esprit, libère, Seigneur, un corps. Nous avons prié pour les malades tout à l'heure. Tu es celui qui guérit. Tu guéris le corps, tu guéris le cœur par ta parole. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème que nous partageons sur ce mois de septembre, c'est le chemin vers le ciel. Est-ce que vous êtes sur le chemin vers le ciel ? Est-ce que nous sommes sur le chemin de faire le ciel ?
Oui.
Qui y est ? Levez la main.
Alléluia.
Alléluia. Si j'ai un conseil à vous donner, restez-y. Restez sur ce chemin et marchez toujours sur ce chemin. Alors, ce chemin vers le ciel, sur la base de Actes 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous ». Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est un chemin avec plusieurs marches. Hein. Repentez-vous, donc, premièrement, la repentance. Repentez-vous, le début de ce chemin. Et que chacun de vous soit baptisé, le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, donc le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce qu'il y en a de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ce matin? Levez la main. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Alléluia! Restez remplis du Saint-Esprit. Et pour les autres, ne vous en faites pas, vous serez baptisés. Hein? Si vous désirez dans votre cœur ardemment, la promesse est pour vous, dit aussi Pierre. Et nous l'avons dit tout à l'heure, dans ce chemin, il faudra y rester jusqu'à la fin, et ça s'appelle la persévérance. Il ne s'agit pas juste de vivre une expérience à un moment, il s'agit de marcher encore, encore et toujours dans ce chemin jusqu'au retour du Seigneur, ou jusqu'à notre départ vers lui, parce que c'est dans un sens ou dans l'autre, hein, vous le savez. Alors, ce matin, vous l'avez compris, nous voyons la première marche de ce chemin vers le ciel. Marc, chapitre 1er, verset 15, c'est Jésus qui commence son message, ici, sa prédication. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Repentez-vous, repentez-vous. C'est ici le commencement du ministère de Jésus et le commencement de sa prédication. Jésus commence à prêcher en annonçant la parole de Dieu, bien sûr, et cette parole concerne le royaume de Dieu. Jésus parle de la proximité du royaume de Dieu. Et que dit-il ? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Il annonce la repentance. Celui qu'il précède, Jean-Baptiste, hein, on le connaît aussi, quel a été son ministère et le centre de son message ? C'est justement, eh bien, le fait que la repentance est le chemin du Seigneur. La repentance, c'est le chemin du Seigneur. Vous allez me dire, mais tout à l'heure, on parlait du chemin vers le ciel. C'est le chemin par lequel nous allons vers le ciel. Mais le chemin par lequel le Seigneur vient vers nous, c'est la repentance. C'est la repentance. Jean-Baptiste va le déclarer dans toujours l'évangile de Marc, chapitre 1er. Nous pouvons faire la lecture du verset 1er au verset 5. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Et en complément, dans un texte parallèle, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Amen. Jean dit « Préparez le chemin du Seigneur. » C'est le chemin par lequel Jésus vient à nous. Préparez le chemin du Seigneur. Et quel est le centre de son message ? Repentez-vous. Et les hommes et les femmes venaient, et ils confessaient leurs péchés. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient cette repentance. Et Jean disait que cette repentance, c'est le chemin du Seigneur. Il ne prêche pas ce qu'il a envie de prêcher, il prêche ce que Dieu veut qu'il prêche. Suivant la prophétie faite par Ésaïe des années et des années avant, Ésaïe, au sujet de Jean-Baptiste, qui allait venir, va eh bien, donner le thème de son ministère, la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alléluia. Quel est le chemin par lequel Jésus vient à nous? C'est la repentance. C'est la repentance. C'est le départ. Sans repentance, il n'y a pas de conversion. Sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, définition donc de la repentance, du terme, afin que l'on comprenne bien de quoi il est question. La repentance, voyez-vous, est un concept qui s'est plus ou moins dénaturé au fil du temps. Quand je cherche la définition d'un mot, je fais comme vous, je vais prendre un dictionnaire. Oui, un dictionnaire. Il y en a deux, le Robert, le Larousse, qui sont les plus connus en français. Il y en a d'autres. Et dans le Larousse, il est question du... La repentance, c'est, pardon, un regret douloureux. La définition de repentance, c'est un regret douloureux. Alors, est-ce que se repentir, suivant la prédication de Jean-Baptiste, suivant la prédication de Jésus quand ils disent « repentez-vous », est-ce qu'ils sont en train de dire « regretter » ? Regretter, eh bien, il s'agit de la tristesse de ne pas avoir fait autrement que tel acte de ma part ait eu telle conséquence. Je le regrette. Je le regrette. D'ailleurs, dans la toute dernière version de la Bible, je crois qu'il a paru en 2021, sauf erreur de ma part, le mot « repentir » a été remplacé par « regretter ». Mais est-ce que c'est « regretter » ? Chers amis, la repentance n'est pas un regret, mais bien plus. La repentance, ce n'est pas ressentir une tristesse, même une douleur, concernant quelque chose qui est arrivé à cause de ce qu'on a fait. La repentance est bien plus, car la repentance est un changement. Donc, ce n'est pas regretter. Ce n'est pas regretter. Ou du moins, ce n'est pas que regretter. Deuxième définition de repentance, qui ne se trouve pas dans le dictionnaire, mais dans la Bible même, parce que vous savez que parfois, on a un mot français, mais qui peut être la traduction de plusieurs mots dans le texte original. Et en l'occurrence, parfois, repentir, se repentir, la repentance, donne eh bien, ce terme en grec, metamelomai. Et il ne s'agit pas ici d'un simple regret, mais vous reconnaissez meta, qui signifie changer. Hein, meta, qui signifie changer. Donc il s'agit bien d'un changement, mais un changement basé sur les émotions. Les émotions. Ah, je ressens quelque chose, donc il faut que je change. Voyez-vous, c'est plus qu'un regret, c'est plus que regarder avec tristesse, c'est dire, ah ben, il faut que je change. Il faut que je change. Mais pas changer dans le sens de la repentance de Jean-Baptiste. C'est changer un ou des détails puisqu'il le faut. Voyez-vous, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voudrait, alors on change la chose. On a fait quelque chose, ça n'a pas amené le bien qu'on aurait voulu, alors on change ce qu'on a fait. J'ai dit des mots, ça a peut-être blessé la personne alors que je ne voulais pas blesser, alors je dis, non, excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je change ce que je viens de dire, je change mon propos. C'est le changement d'un ou de quelques détails. Métamélomai. C'est émotionnel. Parce que sur le coup, nos émotions ont été touchées. On parlait de tristesse tout à l'heure. Nos émotions ont été touchées, alors on veut changer. Changer. Il y a un exemple dans la Bible que j'aimerais citer. Il s'agit de Judas, l'apôtre. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a quand même livré Jésus. C'est terrible. Terrible. Il a livré Jésus. Et suite à cela, dans Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, vous direz chez vous, il est dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. » Voyez-vous, se repentit. Alors on pourrait dire « C'est bon, il s'est repenti. Alléluia, repentez-vous. » Il se repentit. Mais ici, « repentit », c'est « métamélomai ». Et la suite, c'est, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que cela nous importe, là te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Ce n'est donc pas une repentance qui mène à la vie, c'est une repentance qui mène à la mort. Ce n'est pas la repentance qui mène au royaume de Dieu, mais c'est une repentance ici qui condamne. Car Judas n'a pas voulu changer. Il a regretté et il a voulu changer un détail, mais lui n'a pas voulu se changer, lui. Il n'a pas voulu changer de voie. D'ailleurs, dans certaines versions plus modernes de la Bible, à la place de « Alors Judas se repentit », il est dit qu'il fut pris de remords. Il fut pris de remords. C'est émotionnel. C'est que sur le coup, il ne s'est pas senti bien par rapport à ça. Et il a dit « Il faut que je change, je vais rendre mes pièces d'argent. » Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Alors, sous un certain aspect, se repentir, métamélomai, c'est déjà mieux, mais il ne s'agit pas de cette repentance dont parle Jésus. Cette repentance, le disais-je, ne nous fait pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la repentance, métamélomai, non. La véritable repentance, le terme qui se trouve dans les propos de Jésus, dans les propos de Jean-Baptiste, métanoéo, il s'agit non pas du changement d'un détail, il s'agit non pas d'un regret, mais il s'agit d'un changement radical. Radical. Se repentir, peut-être que vous l'avez vu sur le bulletin, notre frère le pasteur Fern l'a écrit ainsi, et j'aime bien cette version, c'est changer radicalement. Alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais parce que j'ai changé. Comment ai-je été changé ? Comment ai-je pu changer ? Premièrement, par la repentance. La repentance. Il ne s'agit plus de la réparation d'un détail. Il s'agit d'un choix réfléchi. C'est un choix. C'est un changement qui touche non plus à un ou des détails, mais à la vie entière. Alléluia, à la vie entière. C'est cela, la repentance qui mène au ciel, la vie entière. Alors, qu'enseigne Jean-Baptiste dans sa prédication ? Cela va nous permettre d'étayer mieux cette définition du principe. Jean-Baptiste, dans son enseignement, il disait donc « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » D'accord ? Petit détail entre parenthèses, remarquez que Matthieu dit « royaume des cieux ». Et quand vous regardez dans Marc, même dans Luc et Jean, c'est « royaume de Dieu ». Royaume des cieux, non pas qu'il prêche quelque chose de différent, non pas qu'il écrive quelque chose de différent, c'est le même royaume, sauf que, pour comprendre le contexte, chaque évangile est en réalité une lettre, une épître, avec un destinataire. Et le destinataire de Matthieu ici, Matthieu quand il écrit son évangile, c'est pour les Juifs. Et les Juifs ne devaient pas prononcer le nom de Dieu. Okay ? Pour eux, prononcer le mot Dieu, ils pouvaient mourir sur place. À cause du commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, comme Matthieu voulait que sa lettre soit pour les Juifs, il ne voulait pas les offusquer, il ne voulait pas les choquer. Au lieu de « royaume de Dieu », il mettait « royaume des cieux ». D'accord ? Donc on referme la parenthèse. C'est le même royaume, c'est le royaume de Dieu. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, quand il parle de cela, c'est la première fois ici, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est la première fois où l'on parle de la proximité du royaume de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, jusque-là, on n'avait jamais parlé d'une proximité de Dieu, d'une proximité du royaume de Dieu. C'était plus dans l'autre sens. On cherchait le moyen pour l'homme d'aller vers Dieu, d'atteindre Dieu. Et Jean-Baptiste, il paraît, et dans sa prédication, il apprend à ceux qui l'entendent que le royaume de Dieu peut venir vers nous. Quand il parlait du royaume de Dieu, les Juifs pensaient au royaume politique d'Israël. Mais Jean-Baptiste, il parle du royaume invisible, du royaume qui n'est pas de ce monde. Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il parlait de ce royaume éternel qui allait paraître en Jésus-Christ. On peut donc dire que la repentance est l'entrée du parcours unique qui nous conduit au salut éternel en Jésus-Christ. C'est le début, c'est l'entrée. En quoi consistait donc cette repentance qui permettait au royaume de Dieu de s'approcher de nous? Premièrement, la confession. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Confessant leurs péchés. Ils n'entraient pas directement dans l'eau pour se faire baptiser. Non, d'abord, ils confessaient leurs péchés. Ce n'était pas une confession religieuse. La religion nous a appris à confesser, n'est-ce pas? À confesser à un homme. Ici, ce n'était pas à un homme qu'il confessait. Vous vous rendez compte? S'il devait confesser à Jean-Baptiste, tout ce que Jean-Baptiste devait entendre et retenir, hein? Chaque jour, tu as fait quoi? Ah, bon, c'était trop. Ce n'était pas à Jean-Baptiste qu'il confessait, c'était au Seigneur. C'était au Seigneur. Ce n'était pas à Jean-Baptiste. La véritable confession biblique, ce n'est pas eh bien, confesser à un homme. Dans certaines circonstances, confesser à un homme, c'est bien. Mais ici, la repentance, c'était avant tout, avant les hommes, c'était de confesser à Dieu. Frère, sœur, cher ami, est-ce que tu parles à Dieu? Parce que la vie chrétienne, c'est parler à Dieu. Au Dieu qui veut avoir une relation avec nous. Il confessait. Il confessait. Alors, il y en a beaucoup qui attendent de parler aux hommes, mais qui ne parlent jamais à Dieu. Alors que Christ est mort pour que nous parlions à Dieu librement. Alléluia. On peut donc dire ici que la confession, on se confessait non pas pour reconnaître qu'on a fait telle ou telle chose de mal. Confesser, ce n'est pas dire « Ah, tu sais, en 1995, j'ai fait ceci, cela. » Non, ce n'est pas ça. La confession ici, c'était l'expression d'un désir profond de changement. J'ai fait ceci, je suis comme cela, je suis comme ceci, mais je veux changer. Alléluia. Je veux changer, je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus faire comme ça. Or, vous vous rappelez ce qu'on disait. Qu'est-ce qui nous caractérise, nous, vous et moi? C'est le péché. Qu'est-ce qui est profond en nous depuis notre naissance et qu'on n'a pas appris de la part de quelqu'un d'autre? C'est péché, c'est en nous. C'est en nous. Nous avons appris aussi que le Seigneur seul peut nous changer, que nous n'avons pas la force de nous changer. Mais la question qui nous conduit à la repentance, c'est est-ce que nous avons l'intention de changer? Est-ce que je veux changer? C'est là tout l'objet de la repentance. Est-ce que je veux changer? Car ici, confesser, ce n'est pas confesser pour confesser. Entrer dans l'eau, ce n'est pas prendre un bain ici. Entrer dans l'eau, c'est ressortir en quelqu'un de différent. c'est être différent, c'est changer radicalement. Alléluia. Changer radicalement. Le baptême de Jean, qui est précurseur du baptême au nom du Seigneur Jésus, hein, selon Matthieu 28, vous vous rappelez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême marquait donc cette intention réelle de changement radical. Et la puissance qui nous permet de vivre ce changement vient du Christ. Alléluia. Autrement dit, je ne peux pas me changer moi-même. Mais devant Dieu, je ne veux plus être comme je suis. Je ne peux pas changer moi-même, puisque si je veux essayer de me changer, ma nature va me rattraper. Mais je me tourne vers le Seigneur en disant, « Seigneur, toi, tu as le pouvoir de me changer. Alors je veux changer. Je ne veux plus être ce que j'étais. Je ne veux plus être un voleur. Je ne veux plus être comme ceci, comme cela. Je ne veux plus faire du mal aux autres. Je ne veux plus, eh bien, avoir ces mauvaises pensées en moi. Je ne veux plus avoir ces colères en moi. Je ne veux plus être esclave de telle ou telle chose, de tel ou tel mal. Je veux changer. Je veux changer. Radicalement. Pas changer un petit peu. Oh, je fumais 10 cigarettes, maintenant j'en fume 9. J'ai changé un petit peu. La semaine prochaine, j'en fumerai 8. Hein ? Je vais changer un petit peu. Non, radicalement. Ça veut dire, j'étais esclave de la cigarette, mais maintenant, je suis délivré. Je change radicalement. Je ne veux plus fumer du tout. Je ne veux plus être esclave de la drogue du tout. Je ne veux plus être esclave de la colère du tout. Je ne veux plus faire le mal. Je ne veux plus avoir de mauvaises pensées. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Seigneur, je veux changer. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur, que nous déclarons cela au Seigneur, c'est là que Jésus vient. Alléluia. Vous comprenez ? Le chemin du Seigneur. C'est là que Jésus vient. Et ce n'est pas tout. Le fruit. Dans son enseignement, Jean-Baptiste a rajouté le fruit. Matthieu 3, 7 à 9. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il semble que pour Jean, ces religieux n'ont pas appris la repentance telle que Dieu la veut. En les voyant venir, eux aussi ils venaient, pour confesser peut-être. Eux aussi voulaient entrer dans l'eau, comme les autres. Eux aussi, si vous voulez, voulaient faire bien. Ils voulaient faire bien. Mais Jean les arrête. Jean ne voulait pas les baptiser comme ça. Jean savait pertinemment que s'ils ne disaient rien et qu'ils entraient dans l'eau, ils allaient ressortir de l'eau exactement comme ils étaient avant. Ils allaient refaire les mêmes choses, avoir les mêmes pensées. Et ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce n'était pas son enseignement. Pourquoi ? Ces religieux, ces pharisiens, ces sadducéens, ils se basaient sur leurs acquis. Avec dans leur cœur la prétention d'eux. La prétention d'eux. C'est-à-dire, pour moi, normalement, tout est bon. Tout est bon. J'ai la bonne religion. J'ai cette filiation à Abraham. Ne vous contentez pas de dire, nous avons Abraham pour père. Pour eux, du fait qu'ils étaient de la descendance d'Abraham, c'est bon. Devant Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Cette connaissance supérieure aux autres, vous vous rappelez à un moment donné dans Jean chapitre 9, il méprisait cet aveugle qui avait été guéri par Jésus en disant, qui t'a enseigné toi ? Hein ? Qui t'a enseigné ? Nous, nous sommes enseignés, mais toi. Hein ? Ils pensaient que leur connaissance supérieure leur était suffisante devant Dieu. Ils pensaient que leur position supérieure, leur phylactère, les places dans les premiers rangs, etc. Puisqu'ils étaient approuvés des hommes, ils étaient approuvés forcément de Dieu. Vous savez, parfois, pour savoir si on est approuvé, on va demander aux autres. Et si les autres nous approuvent, ça veut dire que Dieu valide. Mais non, pas forcément. On peut être approuvé de tous les hommes, mais être désapprouvé de Dieu. Et le contraire est vrai. On peut être approuvé de Dieu et désapprouvé des autres. L'important étant d'être approuvé de Dieu. Alors, ils se basaient donc sur leurs acquis, alors que leurs fruits... leurs fruits laissés à désirer. Parce que la repentance consiste en fruits, pas seulement en paroles, pas seulement de dire « je veux changer », pas seulement de dire « j'ai mal agi ». Jean leur disait, dans Luc chapitre 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, on peut le lire ensemble. Et c'est incroyable, parce que Luc 3, 10, la foule l'interrogeait disant « Que devons-nous faire ?» C'est une belle question. Hein ? Tu prêches la repentance, mais ça consiste à faire quoi ? Pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant, c'est incroyable ? Parce que souvent, nous disons que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. On a raison, c'est écrit. Mais ça devient un prétexte pour ne pas faire, de dire « j'ai la foi en Jésus, c'est bon », ça peut devenir un prétexte. Je ne fais plus attention à ce que je fais ou à ce que je ne fais pas, puisque les œuvres ne comptent pas. Et Jacques vient équilibrer cela en disant « montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres ». Alors certes, les œuvres ne sauvent pas, mais si nous croyons, il y a un fruit. Alléluia. Il y a des œuvres qui montrent notre foi. Que devons-nous faire ? Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse d'eux-mêmes. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Amen. Ne faites plus le mal. Si vous vous repentez vraiment, ne faites plus le mal. Alléluia. Si nous sommes vraiment repentants, nous ne faisons plus ce qui est mal. Sinon, nous n'avons pas changé. Alors, vous voyez, la foule, les publicains, les soldats, Jean leur disait ce qu'il fallait faire pour vivre la repentance. Et même à Hérode. Le roi Hérode, vous vous rappelez, Hérode aimait bien Jean. Et pourtant, Jean lui disait la vérité. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérode aimait bien Jean. Jean, certainement qu'il aimait bien Hérode. Mais Jean lui disait, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Vous savez, j'ai appris, et nous devons apprendre, dans notre monde, dans notre temps et dans notre génération, que la parole de Dieu, à un moment donné, confronte. La parole de Dieu, à un moment donné, vient diviser. Jean aurait pu ne rien dire à Hérode. Vous vous rendez compte? Il est bien avec le roi. Il aurait pu rester bien. En disant, t'inquiète pas, Hérode, tout va bien. Bon, il y a ce petit défaut-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait pas joli, joli, mais c'est pas grave. On va couvrir ça. Hein? On va couvrir ça. Et je sais pas, peut-être qu'Hérode a invité Jean à manger. Oh, on s'entend bien. Bon, il y a ce petit défaut, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Jean-Baptiste ne tapait pas sur l'épaule d'Hérode en disant « T'inquiète pas, tu seras sauvé quand même. » Non. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et Hérode, ça le dérangeait. Pourquoi ça le dérangeait ? Parce qu'il ne voulait pas changer. Il ne voulait pas changer. Il voulait rester comme ça. Jean-Baptiste est allé en prison à cause de ça. Jean-Baptiste a été décapité à cause de ça. Mais il a dit quand même la vérité. Alléluia. Pas de compromis. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Nous connaissons la fin de Jean-Baptiste. Nous connaissons aussi la fin d'Hérode, n'est-ce pas ? Et son jugement. On ne se moque pas de Dieu. Alors, sur quelle base ? Jean-Baptiste leur disait quoi faire ou quoi ne pas faire pour vivre la repentance. Sur la base de la parole de Dieu. Nous avons vu il n'y a pas longtemps, c'est la vérité. Alléluia. Quelle base ? Sur quelle base leur disait-il de partager le tunique avec ceux qui n'en ont pas ? Sur la base de ce que Dieu demandait. Sur quelle base leur demandait-il de ne pas commettre d'extorsion ? Sur la base de ce que Dieu demandait, c'était écrit. Sur quelle base demandait-il aux soldats de ne pas commettre de fraude ? Sur la base de ce qui était écrit, toujours sur la base de ce qui était écrit. Cette repentance et son fruit ont pour base la parole de Dieu, qui est la vérité. Alors, pour mieux comprendre et mieux saisir, j'aimerais vous citer quelques exemples bibliques. Le plus flagrant pour moi, c'est le contraste entre David et Saül. Des exemples de repentance et des contre-exemples. Premièrement, David et Saül. Quelle est la différence entre ces deux personnages qui ont été les deux premiers rois d'Israël ? On parle de repentance. Analysons leurs actes. Qui a commis des actes les plus condamnables, humainement parlant, entre David et Saül ? Hein ? Saül, qu'est-ce qu'il a fait ? Saül, il a offert un sacrifice alors que ce n'était pas à lui de le faire. Et deuxièmement, il n'a pas dévoué par interdit les Amalécites comme Dieu l'avait demandé. Ce sont les deux actions majeures qui ont été à l'encontre de ce que Dieu demandait pour lui. David, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous rappelez Bathsheba ? Adultère. Ensuite, il fait venir Uri pour essayer de maquiller son adultère, puisque la femme est enceinte. Il fait venir le mari de cette femme, et il essaie un petit peu de couvrir la chose, de tourner la chose, en faisant en sorte que Uri aille vers sa femme pour qu'on dise que l'enfant est d'eux. Mais Uri n'a pas voulu aller vers sa femme. Alors, il va faire tuer Uri. Tout bonnement, tout simplement. Il va faire tuer Uri. Adultère, meurtre, le cœur qui s'endurcit. Je ne sais pas si vous étiez à la place de Dieu, qui aurez-vous placé en premier en termes de justice, hein, qui en deuxième. Mais à mon humble avis, je trouve en tout cas que ce qu'a fait David est quand même plus grave, plus dramatique. Chacun peut avoir son opinion là-dessus. Mais quelle est la différence entre David et Saül ? Saül a été rejeté. David a été pardonné. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Saül ne s'est pas repenti. Mais David s'est repenti. Alléluia. Saül a endurci son cœur jusqu'au bout. Quand Samuel vient lui dire « Tu n'aurais pas dû offrir ce sacrifice », il a dit « Mais c'est pas grave, c'est toi Samuel qui était en retard. » Il fallait bien qu'on aille au combat, il fallait offrir le sacrifice avant. Donc je l'ai fait, ce n'est pas grave. Si, c'était grave. Parce que ce n'était pas à lui de le faire, c'était au sacrificateur. Quand il devait dévouer tout Amalek par interdit, suivant le commandement de Dieu, lui, il va garder les meilleures bêtes, il va garder les plus belles femmes. Et quand Samuel vient le voir, au lieu de dire « Ah, c'est vrai, j'ai mal agi », qu'est-ce qu'il dit ? « C'est pas moi, c'est le peuple. C'est pas moi. » Voyez-vous, quand on ne veut pas changer, ce n'est jamais nous. C'est jamais nous, c'est toujours les autres. C'est jamais nous. Saül a refusé de se repentir. Dieu l'a rejeté. Mais par contre, David, quand Nathan est venu le voir pour lui dire « David, je sais ce que tu as fait. Ce que tu as fait n'est pas bien. Et le Seigneur aujourd'hui, eh bien, il juge ce que tu as fait. » Si David était comme Saül et s'il voulait endurcir encore son cœur, c'est simple, il aurait fait tuer Nathan. Il était le roi. Il aurait pu faire tuer Nathan, le seul qui connaissait à part lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est repenti. Il s'est repenti. Et dans le psalmiste, on voit sa repentance dans les psaumes. Il va dire « Éternel, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. Alléluia. J'ai péché contre toi. Seigneur, châtie-moi, mais ne me retire pas ta grâce. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » David se repent. Alléluia. Il porte sa misère devant Dieu. Il passe plusieurs jours dans le deuil devant Dieu. Alors que son enfant n'est pas encore mort, lui, il mène deuil parce qu'il a péché contre Dieu. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, si notre cœur vit toujours la repentance, c'est le chemin par lequel le Seigneur vient vers nous. C'est le chemin par lequel la grâce de Dieu vient vers nous. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Le roi Achab, hein, la Bible nous dit, vous le lirez chez vous, je crois que c'est dans 2 Rois 21, qu'il n'y a pas eu aucun roi qui a fait le mal comme Achab. C'était le roi qui avait commis le plus de péchés, qui avait fait pécher le plus Israël. On parle bien sûr d'Israël, pas de Juda, d'Israël. Le roi le plus idolâtre, avec sa femme, une femme terrible, Jézabel. Achab va faire le mal, et quand il va couronner tout le mal qu'il faisait, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait tuer Naboth parce qu'il voulait sa vigne. Il a fait tuer cet homme qui n'avait rien fait. Alors Élie va venir de la part du Seigneur. Et Élie va annoncer le jugement de Dieu, les calamités qui allaient venir sur lui à cause de cela. Mais dans ce même chapitre 21, la Bible nous dit qu'Achab, en entendant les paroles d'Élie, il va déchirer ses vêtements. Il va prendre le sac et la cendre. C'était, eh bien, le symbole des Juifs pour dire qu'il s'humiliait. Et pendant tous les jours, il va se montrer au peuple dans cette misère. Pour montrer au peuple qu'il n'était pas en faveur de Dieu. C'est fort pour un roi. C'est fort pour un roi. Alors Dieu va dire à Élie, tu as vu comment Achab s'est humilié ? Tu as vu ? Tu as vu ? Je ne ferai pas venir ces calamités pendant sa vie. Alléluia. Même ce roi qui avait mal agi, à cause de la repentance, Dieu va lui accorder grâce. Alors que le riche, vous connaissez tous l'histoire du riche et du pauvre. Lazare le pauvre et le riche. Le riche, lui, pendant toute sa vie, il va mener joyeuse et brillante vie. Ce n'est qu'après sa mort qu'il va regretter. Il n'y a plus de repentance là, il y a du regret. Ce n'est qu'après sa mort. Mais Abraham va lui dire, c'est trop tard. Alors il va dire, mais j'ai encore mes frères, envoie Lazare les voir. Il va dire, non, tes frères, ils n'ont qu'à écouter la loi, ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu quand elle est prêchée. Oui, mais s'ils voient eh bien, un mort qui ressuscite, ils vont croire. Abraham va dire, s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Ne t'inquiète pas. Ils ne croiront pas. Il ne s'est pas repenti. il a eu du regret après. On a également l'exemple d'Israël. Alors, le contre-exemple d'Israël, c'est Israël même. Hein ? Parce qu'Israël s'est repenti à chaque fois que le mal arrivait, on voit dans le livre des Juges. À chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose de mal, ils se repentaient, ils retournaient à Dieu. Mais ensuite, ils retournaient dans leur péché. Alors c'était repentance, dérepentance. Je ne sais pas comment on dit, mais ils se repentaient, ils se dérepentaient tout de suite après. Israël. Et puis, on a ces exemples. Ninive, vous rappelez Jonas, une prédication. Que dis-je ? Ce n'est pas une prédication comme le brave pasteur Johan, hein, ce n'est pas une prédication de 30 minutes, 40 minutes. C'était une phrase. C'était une phrase. Encore 3 jours et Ninive sera détruite. C'était tout. Et Ninive s'est repentie, depuis le roi jusqu'au plus petit. Toute la ville s'est repentie. Alléluia. Il y a une repentance. Et Dieu va dire, je ne ferai pas venir la destruction de cette ville. Alléluia. Parce qu'elle s'est repentie. Contrairement à, je parle ici des hommes d'Apocalypse 9, n'est pas un livre qu'on aime forcément lire, l'Apocalypse, n'est-ce pas ? Pourtant, c'est la parole de Dieu. Et que nous dit Apocalypse 9 ? Les autres hommes, je rappelle ici le contexte. Il y a le sixième ange qui va sonner de la trompette. Et des fléaux vont arriver. Des fléaux qui vont toucher à la terre. Et des hommes vont mourir. Des hommes vont mourir. Et suite à cela, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ils ne se repentirent pas. De manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ils ne se repentirent pas. Qu'est-ce qui marque cette fin des temps ? Les hommes ne se repentent pas. Chers amis, comment voulez-vous que le Seigneur vienne si on ne se repent pas ? Pourtant, ils voient des meurtres, ils voient des choses arriver, mais ils ne se repentent pas. Puissions-nous vivre la repentance ? Puissions-nous toujours vivre la repentance ? Et j'aimerais terminer par ce qui est pour moi l'exemple type. Le fils prodigue et son frère. Vous ferez la lecture chez vous de tout ce chapitre, il est assez long, j'en ai relevé quelques passages. Luc 15, versets 17 à 19. Le fils prodigue, je rappelle le contexte, il vient vers son père et lui dit « Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » C'est terrible, hein, parce que son père est encore vivant, il n'est pas mort. Mais « Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Son père lui donne, parce que son père l'aime. Est-ce que nous savons que notre père nous aime ? Est-ce que nous savons que notre Père nous aime ? Son Père lui donne parce que son Père l'aime. Mais lui, il s'en va. Et il va dépenser son bien dans les plaisirs, dans eh bien, la débauche, nous dit la Bible. Dans la débauche. Et à un moment donné, il n'a plus d'argent. À un moment donné, il se retrouve au plus bas du plus bas. Il se retrouve à soigner des animaux qui sont impurs pour les Juifs, les cochons. Et il a tellement faim qu'il voudrait manger le manger de ses cochons. C'est terrible de tomber si bas. Lui, il est tombé si bas. Ça aurait pu s'arrêter à là. Mais au verset 17, il est dit « étant rentré en lui-même ». Car se repentir, mes chers amis, c'est premièrement rentrer en soi-même. Quand je me repens, ce n'est pas pour le regard des autres. C'est moi vis-à-vis de moi. Je rentre en moi-même. Je m'examine, je me parle, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. C'est un constat. Et puis, il y a une intention. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. J'ai péché contre le ciel. contre le ciel. Voilà ce qu'il réalise. Que ce qu'il a fait de mal est avant tout contre le ciel. Avant d'être contre une personne, c'est contre le ciel. Contre le ciel. Qu'est-ce qu'il rajoute ? Je ne suis plus digne. Alléluia. La repentance nous fait dire « Je ne suis pas digne ». Vous savez, il y a des drôles de repentance aujourd'hui. Il y a de ceux qui, lorsqu'ils se repentent, viennent devant le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai mal agi, mais... » C'est pas grave. Après tout, tu me pardonnes. Je vais continuer. J'aimerais vous dire une chose qui est importante de comprendre concernant Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé de nous pardonner? Est-ce que vous savez que Dieu n'est le débiteur de personne? Qu'il ne doit rien à personne? Dieu n'a aucune obligation à me pardonner. Aucune. Vous allez me dire, mais Jésus est mort à la croix. Oui, c'est vrai. Mais depuis quand Dieu est-il obligé de me pardonner? Depuis quand? Vous vous rappelez quand Pierre s'est adressé à Simon le magicien dans cette ville de Samarie? Il a eu une belle conversion, Simon. Mais quand il a vu que les apôtres priaient pour les hommes en leur imposant les mains et que le Saint-Esprit leur était donné, Simon a dit, donne-moi aussi ce don. Et il a voulu payer, il a voulu donner de l'argent. Donne-moi aussi ce don. Et Pierre va lui dire, tu es dans un fiel amer, que ton argent périsse avec toi. Et Pierre rajoute, repens-toi, afin que, s'il est possible, Dieu te pardonne. L'apôtre Pierre ne dit pas, Dieu va te pardonner. L'apôtre Pierre dit, s'il est possible, Dieu te pardonnera. Le pardon de Dieu n'est pas une obligation. Nous devons réaliser, quand nous péchons, nous ne sommes plus dignes. Alléluia. Dieu veut nous pardonner, mais il nous faut nous repentir. La vraie repentance. La vraie repentance. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il ne se sent même plus de lui demander, traite-moi comme ton fils. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand il se lève et qu'il va vers son père au verset 20, comme il était encore loin, qu'est-ce qui se passe? Il est encore loin, son père l'attend. Qu'est-ce qui se passe? Son père court vers lui. Alléluia! Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il n'a pas attendu que le fils vienne, mais lui, il va vers son fils. Alléluia! Parce que son fils revient. Son fils est repentant. Voilà pourquoi c'est le chemin du Seigneur, le chemin du Père. Parce que quand nous nous repentons, c'est Dieu qui vient vers nous. Alléluia. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui veut nous pardonner. C'est Dieu qui veut nous relever. Et l'honneur lui est ensuite rendu par son Père. Son Père l'arrête quand il dit « Je ne suis plus digne ». Son Père ne lui donne même pas le temps de lui dire « Traite-moi comme un mercenaire ». Son Père lui dit « Arrête, c'est bon ». Tu t'es repenti, c'est bon, parce que Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur, avant même que nous sortions les mots. Dieu voit notre cœur, c'est bon, apportez-lui la plus belle robe. Alléluia. Mettez-lui l'anneau au doigt, parce que c'est la plus grande des distinctions. Redonnez-lui sa place. Alléluia. Mettez-lui des chaussures aux pieds. Redonnez-lui sa place. Quand on se repent, Dieu nous redonne la place. La repentance. La repentance. Par contre, pour notre frère, c'est triste, mais je termine volontairement par cet exemple, qui est en réalité un contre-exemple. Notre frère, quand il entend qu'il y a la fête, alors qu'il revient des champs, il demande à un serviteur, qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit, mais tu sais pas, ton frère est revenu, alors ton père a donné une fête. Et lui qui dit, quoi? Il a pris l'argent de la maison. Il est allé dans la débauche. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Il a déshonoré notre maison. Il a déshonoré notre père. Et notre père fait une fête pour lui. La Bible nous dit qu'il était en colère. Il était dehors. Il était en colère. Et il ne voulut pas rentrer. Mes chers amis, où est notre place? C'est dedans ou c'est dehors? Dieu veut notre place dedans, alléluia. Dans sa maison, pas dehors. Lui, il reste dehors. Je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Il est en colère. Attention, parce que la colère fera finalement qu'on n'entrera pas dans la maison. Il est en colère. Et son père vient le voir. Ah, voyez que finalement, dans ce passage, le titre de l'histoire, c'est le fils prodigue. Moi, je l'aurais appelé le père prodigue. Parce que le père est plein d'amour. Alléluia. Le père est plein d'amour. Prodigue, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Le père est rempli d'amour. Il est allé voir son fils qui se repentait. Il est aussi allé voir l'autre fils qui ne voulait pas rentrer. Et il me semble que ce matin, ce même père vient vers chacun de nous. Alléluia. Vers chacun de nous. Lui qui connaît nos cœurs. Lui qui connaît ce que nous traversons, ce par quoi nous passons. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Et il vient dire, mais pourquoi tu ne veux pas rentrer? Il va répondre à son père, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il fallait se réjouir, mais toi tu ne peux pas te réjouir, parce que ton cœur est rempli de colère. Voyez, ce fils-là, il était toujours dans la maison. Il n'est jamais allé loin, il n'est jamais allé avec les prostituées, il n'est jamais allé dans la débauche. Il ne s'est jamais retrouvé au milieu des porcs. Jamais. Il était dans la maison. Mais vous voyez à combien de kilomètres était son cœur? Si loin, si loin, si loin. Ce matin, on peut être dans la maison. Mais notre cœur peut être si loin. Si loin, si loin. Il semble que lui était encore plus loin que son frère qui est parti et qui est revenu. Il a fermé lui-même son cœur à la grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas la repentance. Vous savez, le dommage de cette histoire, c'est que cette histoire s'arrête là. Autrement dit, le fils qui est allé dans ce qui est sale, la prostitution, la débauche et autres, lui, il a retrouvé sa dignité. Mais l'autre, qui était toujours dans la maison, à la fin de l'histoire, il était dehors. Voyez le contraste? Celui qui était le plus condamnable, il est dans la maison à la fin de l'histoire. Celui qui semblait le plus sage, le plus gentil, le plus juste, il est dehors à la fin de la maison. À la fin de l'histoire, pardon. Il est en dehors de la maison. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse à ce moment-là? Parce que son cœur était en colère, oui, mais il fallait qu'il se repente. Il fallait pour lui une plus grande repentance. Il fallait qu'il voie sa misère, qu'il rentre en lui-même et qu'il revienne dans la maison de son père. Alléluia. Ce même père nous invite ce matin à nous repentir. À nous repentir. Voulons-nous nous courber? Voulons-nous nous incliner devant Dieu? Voulons-nous invoquer le nom du Seigneur? Je ne connais pas ton cœur ce matin. Tu ne connais pas le mien. Mais Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît chacun de nous parfaitement. Il lit en nous comme un livre ouvert. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, ma sœur? Où as-tu besoin de repentance? Sur quel terrain as-tu besoin de revenir au Seigneur? N'essaie pas de changer un détail ce matin, mais change radicalement au nom du Seigneur Jésus. Change de voie. Prends le chemin vers le ciel qui commence par la repentance. Si tu viens à la repentance ce matin, c'est Jésus lui-même qui revient à toi. C'est Jésus lui-même qui vient vers toi afin de te bénir, de te sauver, de te délivrer. Voulons-nous prier le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi et nous nous sentons si misérables, Jésus, si misérables, si loin, Seigneur, de ce que tu es, si loin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Regardons à l'exemple, Seigneur, de ce frère qui est resté dehors, nous voyons nous aussi notre misère. Dans la maison, il y a de la joie. Dans la maison, il y a des chants, de la louange, il y a la paix. Mais notre cœur peut être bien à des kilomètres. Ce matin, par ton esprit, visite-nous, Seigneur, et permets-nous de revenir à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais m'adresser à quelqu'un, et ce que je vais dire est sensible. Ce que je vais dire est très sensible. Alors, je ne vais pas vous demander de vous manifester immédiatement. Entendez simplement ce que je suis en train de dire. Est-ce que dans ton cœur, tu ressens le besoin de revenir à Dieu? Est-ce que tu ressens le besoin de te repentir? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui fait que, si physiquement tu es dans la maison de Dieu, spirituellement tu en es loin? Est-ce qu'il y a des œuvres qu'il te faut changer radicalement? N'essaie pas de le faire par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais par la repentance, laisse Jésus venir vers toi et laisse Jésus par le Saint-Esprit souffler dans ta vie afin que ton cœur soit changé. C'est du cœur que viennent les choses mauvaises. C'est du cœur que viennent, la Bible nous dit, les adultères, les mauvaises pensées, les calomnies, toutes ces choses, ça vient du cœur. Mais si tu te repens, tu permets à Jésus de venir dans ton cœur et dans ta vie. J'aimerais simplement demander s'il y a quelqu'un qui voudrait que l'on prie pour lui. Si tu voudrais simplement que je prie pour toi. Mets-toi debout à ta place. Ne regarde pas à droite ou à gauche. Nous sommes dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de jugement ici. Il n'y a que la grâce. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier sans arrière-pensée. J'aimerais prier pour vous. Seigneur. Seigneur. Étends tes mains sur mes bien-aimés. Et accorde-leur ta grâce et la délivrance qu'ils te demandent, Seigneur. Étends tes mains, Seigneur, par ce chemin de repentance qui est ton chemin, Esprit de Dieu, souffle. Souffle sur les cœurs, souffle sur les vies qui ont besoin, qui ont faim, qui ont soif de toi. Et que ta grâce soit le partage de chacun au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui guérit le cœur. Tu es celui qui lave l'âme, Seigneur. Et tends tes mains sur nos bien-aimés, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous inviterai peut-être tous à vous lever.